Vous êtes sur RTL.
20h, 21h, jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, jour J vous entraîne sur le circuit mythique des 24 heures du Mans. Merci d'être fidèle à jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, c'est le magazine qui vous fait vivre les grands moments de l'intérieur. Accrochez vos ceintures, ça va dépoter. C'est samedi après-midi que s'élanceront les 62 bolides au départ des 24 heures du Mans. Si la course est mythique, le rendez-vous de cette année restera dans l'histoire. Car nous fêtons les 100 ans de l'événement qui a célébré les plus grands pilotes et vu passer Paul Newman, Steve McQueen ou encore Brad Pitt. Car c'est aussi ça les 24 heures du Mans. La résistance du cliché et du fantasme de l'homme. Un shoot de testostérone, de belles gueules mal rasées dans un exercice d'endurance. Des équipes de 3 pilotes par voiture qui se relaient jour et nuit pour afficher la plus longue distance possible. Nous ne resterons pas 24 heures, mais assez pour vous faire découvrir les coulisses de la course la plus mythique du monde.
RTL, jour J.
Et ce n'est pas Brad Pitt qui nous accueille aux 24 heures du Mans, mais ce n'est pas grave, je n'ai aucun regret. Frédéric Veil, bonsoir.
Bonsoir.
Merci. Oh, et puis en plus, vous me faites un bonsoir à la Brad Pitt.
Mais oui.
Bah, c'est magnifique.
On est au Mans, c'est normal.
On est au Mans, c'est normal. Merci beaucoup Frédéric de nous accueillir donc devant le musée automobile de la Sarthe, le musée des 24 heures du Mans. Vous êtes, vous à RTL, le spécialiste des sports mécaniques. Et quand je suis arrivée il y a un instant, vous m'avez dit, mais tu sais, moi en fait, ici, je suis dans mon jardin.
C'est vrai, ça fait plus de 30 ans que je viens ici pour commenter les 24 heures pour RTL. Ça fait plus de 40 ans que je viens ici en tant que passionné. Je suis du même tout gamin. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a au cœur. Les 24 heures du Mans, de toute façon, ça se vit. Et vous allez vous en rendre compte, Flavie, quand on va déambuler dans ces 24 heures, que ce soit ici au musée ou que ce soit à l'intérieur du circuit, ça prend aux tripes. Parce qu'on est... Je ne vais pas dire sur une autre planète, mais pas loin.
On n'est pas loin, et d'ailleurs, c'est le sentiment que j'ai parce que j'entends déjà les voitures qui tournent. On rentre dans ce musée, de toute
allez,
façon,
on va rentrer
Frédéric.
Dans le musée. Exactement.
Vous allez nous faire vraiment, c'est ce que je disais, hein, découvrir cet événement de l'intérieur. Parce que, vous l'avez dit, ça se ressent, ça se vit. Et par exemple, moi, je sens déjà la puissance des voitures qui sont dans les essais en ce moment. C'est quoi ? Qu'est-ce
c'est
qui
ça,
se passe
c'est les essais. Il y a des essais déjà depuis hier. Ça se poursuit aujourd'hui jusqu'à tard ce soir. Et puis, après demain, ce seront. La journée du centenaire, la journée des célébrations, et ça se terminera évidemment par samedi et dimanche la course. Donc là, on va se faire un petit chemin et on va pouvoir pénétrer dans le musée. Alors, ce qui est important dans le musée, c'est qu'on est vraiment dans l'antre des 24 heures. Et pour ce centenaire, les 24 heures ont fait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont reconstitué 100 ans de 24 heures du Mans. Vous allez voir. Tout au long du musée, il y a une exposition, il y a pratiquement toutes les voitures qui ont gagné le Mans.
Génial.
Et il y a plein de pans d'histoire qui sont importants à connaître. Là, on va vraiment connaître les 24 heures du Mans.
Alors, on y va, on avance. Je rêve où il n'y a que des hommes ici. Je disais tout
non,
à l'heure en début d'émission,
pas du tout.
C'est un peu dans une ambiance testostéronée. Mais non, on est d'accord quand même, Frédéric, que... c'est aussi ça les 24 heures du Mans, c'est aussi un peu le fantasme de l'homme qui sort de sa voiture, l'homme endurant.
Mais oui, mais il y a des femmes aussi qui font les 24 heures
Odette
du Mans.
Odette a fait les 24 heures du Mans.
Odette a fait les 24 heures du Mans, il y a 5 femmes cette année qui font les 24 heures du Mans, dont 2 jeunes françaises. Donc non, ce n'est pas qu'une affaire d'hommes aujourd'hui. Et puis au niveau des spectateurs, eh bien faut savoir qu'il y a de tout, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des hommes, il y a des femmes, tout le monde est là. Je vous propose, alors, Flavie, oui. D'aller à un endroit... mais vraiment, vraiment mythique. Parce que regardez ce panneau, il date de 1923.
Alors, on va le décrire à ceux qui nous écoutent. On est à l'entrée donc, du musée des 24 heures du Mans. Et vous venez, c'est fou parce que l'histoire est en face de moi et je m'en rends compte. J'ai le droit de le toucher ou pas ?
Allez-y.
Alors, c'est un panneau, comme un ancien panneau de circulation, en
exactement,
fait,
hein,
qui indique le kilomètre zéro et le départ. C'est hyper beau.
Voilà, ça date de 1923. Et si vous regardez, ça, ce sont les impacts de balles de la Seconde Guerre mondiale.
Arrête.
Et en fait, il a été sauvé parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il n'y a pas eu les 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans ont repris dans les années 50. Et à l'époque, ce panneau a été l'un des vestiges qui a réussi à être sauvé parce que le circuit a été entièrement détruit. Les tribunes ont été démontées et brûlées par les Allemands pour évidemment faire du bois de chauffage. Tout le circuit a été bombardé Et le seul survivant à l'époque du circuit de la Sarthe, du grand circuit de la Sarthe, c'est ce panneau qui date de 1923 où on voit des impacts de balles.
Alors, quand on regarde ce panneau, on y est. 1923, qui a l'idée d'organiser cette course folle en fait, hein, parce que le principe, c'est ce que je disais, des 24 heures du Mans, ce sont des équipages qui se relaient jour et nuit et qui tournent sur un circuit.
Bah, à l'époque, c'est une petite poignée de passionnés,
ouais,
qui travaillent avec des constructeurs et pour éprouver en fait les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, se décident d'aller faire une course de 24 heures pour voir si les moteurs tiennent, si les suspensions tiennent, si tout tient. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la première édition des 24 heures du Mans, il y a 33 voitures au départ, il y en a 30 à l'arrivée au bout de 24 heures. C'est le plus gros taux de réussite de toute l'histoire des 24 heures en 91 éditions. C'est juste fabuleux.
Mais ça veut dire en fait, Frédéric, qu'au départ, les coureurs venaient sur le circuit avec leur propre véhicule ?
Non, c'était des constructeurs. C'est-à-dire que la première voiture qui a gagné, c'était une Schoenard & Walker. C'est une marque aujourd'hui malheureusement disparue, mais toutes ces voitures étaient des marques et les marques venaient éprouver justement leur voiture. Et c'est un petit peu ce qui a été toute l'histoire des 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, c'est le laboratoire de l'automobile pour les constructeurs.
Et en 1923, la voiture la plus rapide sur les 24 heures du Mans roulait à quelle vitesse ?
95 km/h. On va aller la voir. Elle est un petit peu plus loin.
C'est
une Schoenard & Walker. Elles sont toutes exposées ici dans le grand musée des 24 heures.
Donc ça veut dire aussi que tous ces véhicules ont été pour le centenaire réunis pour raconter l'histoire des 24 heures du Mans. Donc j'imagine aussi à travers l'histoire de la course, l'histoire de l'automobile.
Exactement. Et pour que tout le monde comprenne bien tout ça, eh bien, j'en ai fait un grand podcast qui est sur le site RTL, un grand podcast immersion où justement je retrace ces 100 ans de course automobile et toute l'histoire de la course et de toutes ces petites histoires, parce qu'il y a la course, mais il y a toutes les petites histoires qui viennent se greffer sur les 24 heures du Mans.
Vous allez être notre conteur ce soir. Vous êtes beaucoup plus grand que moi, Frédéric Veil. Donc, c'est une illusion.
Non, mais
c'est-à-dire
que
vous pouvez. C'est un effet d'optique. C'est-à-dire que vous pouvez me dire un petit peu cette queue immense-là. On peut la dépasser. Il y a beaucoup de monde ou pas ?
On va la dépasser. C'est le succès de l'exposition. C'est énormément de
monde. Alors, vous voyez où on va. Moi, je vous suis. J'ai monté sur vos épaules. Et nous, on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL pour cette émission spéciale. Donc aux 24 heures du Mans, à deux jours du départ, avec Frédéric Veil. Dans un instant, on se retrouve devant ces fameuses voitures mythiques. Et je suis persuadée que je vais voir passer l'histoire. Et Steve McQueen, à tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, jour J. Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J se poursuit ce soir pour une émission exceptionnelle depuis le circuit mythique des 24 heures du Mans avec le non moins mythique Frédéric Veil.
Bah, c'est quoi? Trop d'honneur.
Attendez, vous êtes rutilant au milieu de magnifiques véhicules parce que là, en fait, Frédéric Veil, vous êtes le spécialiste des sports automobiles et mécaniques d'RTL. Nous sommes donc au musée des 24 heures du Mans. C'est le centenaire de l'événement. C'est pas la 100e course d'ailleurs cette année.
Mais non, c'est la 91e édition puisqu'évidemment, il y a eu des années où il n'y a pas eu de départ. Et également, ça s'est passé au moment de la crise pétrolière où il y a eu une édition qui n'a pas eu lieu.
Voilà, mais sinon, c'est une édition annuelle donc qui a lieu en cette période, au mois de juin, chaque année, avec donc le départ de cette année, combien de véhicules, je le disais,
62
véhicules.
Comme tous les ans.
Et donc, 3 pilotes par équipe donc qui prendront le départ samedi après-midi pour donc 24 heures. Alors là, on est au musée et vous m'avez promis de voir des belles caisses.
Bah, des belles caisses.
Et bah là, on est face aux belles caisses.
Elles sont toutes là, toutes
qu'est-ce
les voitures.
Que c'est beau. Oh, mais attends, j'ai l'impression là de faire un voyage dans le temps.
Voilà, toutes les voitures qui ont gagné Le Mans sont ici, ont été réunies. Ça a été une prouesse extraordinaire des gens de l'Automobile Club de l'Ouest et du Musée des 24 heures. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces voitures, ce sont des œuvres d'art qui valent des millions et des millions et des millions d'euros, qui appartiennent à des collectionneurs privés, qui appartiennent à des musées, de marque, à des musées privés. Et la CO a réussi à contacter tout le monde et à convaincre tout le monde qu'il fallait justement, pendant les 24 heures du Mans, pendant ce centenaire et pour célébrer ce centenaire, de pouvoir réunir toutes ces voitures. Ça va de la Schoenard & Walker de 1923, qui a donc gagné la première édition, qui est là juste devant nous,
magnifique,
à la toute dernière Toyota, qui a gagné évidemment la dernière édition.
Racontez-nous cette voiture ancienne, justement. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, en dehors d'un design absolument
Ce sont des voitures de 1923 qui ont des...
Mais on tournait devant le truc, tournevis
non,
c'est non, pas... Non,
la manivelle, ça s'appelle.
La manivelle, pardon.
C'est une manivelle.
Pardon.
Après, vous pouvez toujours essayer avec un tournevis, mais ça marchera beaucoup moins bien.
Pardonnez-moi. c'est vous dire ma connaissance du sujet. Oui.
Donc, en fait, voilà, il y a ces voitures de 1923, et puis on s'aperçoit que c'était de la mécanique assez sommaire, mais de la mécanique qui marchait très bien. Et puis après, plus vous voyez, on voyage dans le temps. Et à chaque fois, la CO a réussi à retranscrire tout ce qui était important. Et là, on arrive dans les années 40, les années 50, les années 60. Et là, on arrive sur les années les plus mythiques, les années Ferrari. Et là, quand on est ici, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai les poils qui se dressent.
Je ne suis pas sensible aux voitures, mais là, je dois quand même confesser que ce que je vois, c'est magnifique. Décrivez-nous, là, cette Ferrari.
Ce sont les Ferrari
250 TR 5960.
Voilà, ce sont les Ferrari de la grande époque. Ce sont les Ferrari qui, dans les années 60, ont tout gagné ici au Mans. C'est cet épisode qu'on voit... C'est la première partie de l'épisode qu'on voit dans le film Le Mans 66, qui a été très bien retracé avec ce duel entre les Ferrari et les Ford. Et on va se diriger juste là-bas, justement, aller voir la Ford GT, cette Ford mythique, la Ford GT. C'est certainement la voiture la plus emblématique, à mon humble avis, des 24 heures du Mans, parce que c'est la voiture qui a détrôné Ferrari. C'est la voiture que Henry Ford a voulu pour aller concurrencer, pour aller battre Ferrari. C'est très très bien expliqué dans le film Le Mans 66 de James Mangold. Mais voilà, vous avez exactement ici les deux voitures. Regardez, vous avez la Ferrari qui est là,
oui,
et la Ford GT40. Alors, ce sont les deux voitures qu'on voit dans le film. Ce sont les deux voitures d'origine. Ça vaut des millions et des millions d'euros.
Alors, Frédéric, je suis une femme, je suis beaucoup plus sensible aux voitures que j'ai vues précédemment, parce que je me dis, tiens, je pourrais aller faire un tour le week-end sur les routes de campagne avec un homme, on s'arrêterait, on prendrait un verre de rosé avec modération et on s'arrêterait dans un champ avec une vue sur la mer. Pour moi, ce sont des sublimes voitures à pique-nique. Là, on est clairement rentré dans le design de la voiture de course.
Ah, mais c'est-à-dire que ce que vous avez vu avant, c'était des voitures, ce qu'on appelle des voitures GT, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, qui était améliorée pour la course. Et que là, on est arrivé dans les prototypes. Encore que la Ford GT40, c'est une voiture GT, c'est une voiture aujourd'hui...
Oui, mais on ne va pas faire un pique-nique avec, on est bien d'accord.
Ah si, vous pouvez, justement. Si vous ne mettrez pas grand-chose dans le coffre, mais vous prenez juste un tout petit sandwich, ça ira.
Et dites-moi, parce qu'il y a effectivement ces voitures qui sont absolument splendides, j'avoue que c'est assez époustouflant. Il y a aussi les pilotes. Tout à l'heure, en rentrant dans le musée, vous m'avez montré la combinaison de Steve McQueen.
Eh oui.
Je ne fais pas une fixette sur Steve McQueen, mais il se trouve quand même que ça a été un coureur mythique qui est venu une année se joindre à tous les autres.
Mais qui n'a pas couru les 24 heures.
Ah, mais je croyais qu'il était arrivé deuxième.
Et non, justement, il était remplacé, il n'avait pas le droit. Il a fait son film,
d'accord,
donc il a fait toutes les scènes, mais il n'a en aucun cas, ses assureurs lui ont permis de courir la course. Donc en fait, ce sont que des scènes qui ont été montées.
On risque sa vie, on peut mourir sur le circuit des 24 heures du Mans. Qui sont les pilotes? Ce sont des héros.
Malheureusement, oui, il y a eu beaucoup d'accidents sur les 24 heures du Mans. C'est une course automobile et comme toute course automobile, c'est dangereux et voilà, l'imprévu, malheureusement, peut de temps en temps causer des accidents.
Il y a une porte, cette fameuse porte mythique. Tout le monde m'a dit, Flavie, si tu vas sur le circuit des 24 heures du Mans, demande à Frédéric de t'emmener à la porte. On va y aller dans un instant.
Forcément.
Et vous allez nous raconter ceux qui ont marqué l'histoire de ce circuit. Et vous allez m'expliquer justement en quoi être un pilote sur ce circuit si singulier, c'est aussi quelque part être un héros. Vous allez nous dire ça dans un instant et nous faire partager votre passion dans Jour J sur l'antenne d'RTL. A tout de suite.
RTL, Jour J avec Flavie Flamand. Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
C'est un jour J mémorable que l'on vous propose ce soir sur RTL jusqu'à 21h en compagnie de Frédéric Veil qui est mon guide sur le circuit des 24 heures du Mans. Le départ, Frédéric Veil, c'est samedi. Il se passe énormément de choses déjà depuis quelques jours.
Depuis vendredi dernier,
il y a des essais.
Ah, il y a eu d'abord les contrôles techniques vendredi et samedi en centre-ville du Mans sur la place de la République où il y a eu une foule immense.
Non mais attends, les essais, ça veut dire qu'il y a les voitures en fait qui sont...
Non, c'était en centre-ville du Mans. Ce sont les vérifications techniques. C'est-à-dire que toutes les voitures sont vérifiées une à une. On vérifie également les papiers des pilotes, les casques, les combinaisons des pilotes. Et depuis dimanche, en fait, tout se passe ici, sur le circuit. Donc dimanche, il y a eu la journée test, ce qu'on appelle la journée test, qui permet aux pilotes, justement, qui n'ont jamais couru le Mans, de pouvoir valider leur inscription.
Ouais.
Et puis à tous les autres pilotes, évidemment, de roder les voitures et puis de prendre, en fait, possession de la piste.
Je t'ai demandé tout à l'heure, emmène-moi à la porte. Tout le monde m'a dit, il faut absolument que que tu passes sous la porte. Alors, on ne peut plus passer sous la porte.
Non,
on
parce
vient
que
de la
là,
contourner.
Voilà, c'est le centenaire. Il y a beaucoup trop de monde, donc la porte, elle est fermée. Mais,
alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette
mais
porte?
C'est la porte d'entrée du circuit Bugatti. Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir ici. C'est le circuit Bugatti, c'est le petit circuit qui est l'enceinte du circuit. Et pour les 24 heures du Mans, en fait, le circuit, il va se prolonger un petit peu plus loin, prendre la route nationale qui va en direction de Tours et emprunter le grand circuit qui lui fait 13 km. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le circuit de la Sarthe. C'est là où va se courir les 24 heures du Mans.
D'accord. Et alors, sous cette porte, passer avant les voitures?
Ben oui, tout le monde passait ici, tout le monde rentrait ici. Aujourd'hui, tout a été réaménagé parce que voilà, les organisateurs, par des soucis d'écologie, oui, aussi, c'est important, ben, ne veulent plus trop de voitures à l'intérieur, sauf les voitures de compétition. Donc voilà, la porte maintenant est désormais fermée, mais avant, tout le monde rentrait ici. Et tous les illustres, on parlait tout à l'heure de Paul Newman, on parlait de Steve McQueen, ben, ils ont franchi cette porte-là, ils sont passés sous cette porte-là. Et toi aussi.
Et moi aussi, évidemment, au bras de Frédéric Veil. C'est quoi la passerelle?
Ah, c'est la passerelle d'Allop, c'est la mythique passerelle d'Allop. Elle est là depuis 1923. Elle a été érigée par le manufacturier, évidemment, depuis
donc,
1923.
Elle aussi, elle a 100 ans.
Elle a 100 ans. Alors, elle a 100 ans, pas tout à fait, parce qu'elle a été changée depuis. Elle a été bombardée pendant la guerre.
Elle a
parce
eu un petit lifting.
Elle a été déplacée de 50 mètres, 60 mètres. Mais elle est toujours là et elle est mythique. Elle permet aux spectateurs de traverser la piste.
D'accord, ok. Alors, maintenant, ce que je voudrais que l'on fasse, c'est que l'on parle de ces fameux pilotes. Il n'y a pas eu que Steve McQueen et que Paul Newman. Le circuit des 24 heures du Mans a vu passer des héros. Est-ce que Jackie X, c'est vraiment le monsieur 24 heures du Mans?
Ça fait partie des monsieur 24 heures du Mans. Peut-être le plus emblématique, c'est Henri Pescarolo. C'est le recordman du monde de participation. Il a plus de 33 participations 24 heures du Mans. Il y a Jackie X, il y a des gens comme Derek Bell, il y a plein de gens. Il y a Jean Rondeau. Jean Rondeau qui était du Mans, qui a gagné le Mans sur une voiture de sa propre conception. Donc voilà, il y a plein de pilotes mythiques. Il y a des anonymes. Et puis il y a eu des stars qui ont couru. On a parlé de Paul Newman qui a vraiment couru, qui a terminé deuxième sur
ah,
une
c'est
Porsche.
Lui, voilà, je l'ai confondu avec Steve McQueen tout
ah,
à
oui.
l'heure.
Et puis il y a eu Patrick Dempsey qui a couru longtemps ici, qui court. Il ne court plus aujourd'hui, mais il a son écurie qui est ici, une écurie Porsche.
C'est le docteur Mabour, lui, non?
C'est lui qui est souvent venu au micro d'RTL pour nous parler de sa passion des 24 heures du Mans. Donc voilà, il y a des anonymes, il y a des jeunes, il y a des pilotes qui sont un peu plus âgés, il y en a qui ont presque 60-70 ans, il y a des pilotes, des filles de pilotage, et puis il y a des pilotes très fortunés. Il y a beaucoup de pilotes qui sont très fortunés et qui achètent leur volant, mais ils sont aussi passionnés, ils sont aussi de très très bons pilotes. Mais il y a des gens de tout niveau dans le pilotage. Il y a des pilotes professionnels et il y a des pilotes amateurs.
Est-ce qu'il y a des femmes?
Bien sûr qu'il y a eu des femmes. Il y a toujours eu des femmes. Il y a eu Odette Cisco qui a été une des premières. Il y a eu plein de femmes. Il y a eu Vanina X, la fille de Jackie X, qui a couru il n'y a pas très longtemps. Et cette année, il y a 5 femmes, dont 2 françaises. Doriane Pin, qui a 19 ans, qui est pilote professionnel dans une grande écurie qui s'appelle Prema Racing. Et surtout Lilou Wadou, qui est la première femme à intégrer l'écurie Ferrari. Et elle court chez Ferrari. Lilou Wadou, elle a 22 ans. Doriane et Lilou, ce sont les deux grands espoirs du sport automobile français actuellement.
Là, il y a un tunnel, il faut qu'on l'emprunte. Il fait grand noir dans ce tunnel.
Il fait grand noir, mais vous inquiétez pas, vous allez me donner ma main, ça va bien se passer, on va traverser le tunnel. Pour tout vous dire, ce tunnel, s'il est là, c'est qu'en fait, on va passer sous la piste.
C'est parti.
RTL, jour J.
Nous voici donc, Frédéric Veil, au village. Et alors, au village, il y a plein d'adresses qui sont finalement les adresses des écuries, si j'ai bien compris, des stands, si on peut appeler ça comme ça. Et là, tu m'as emmené directement chez Ferrari.
Ben oui, parce que Ferrari, c'est mythique. Déjà d'une, la marque est mythique. Et puis Ferrari, ça fait 50 ans qu'ils n'étaient pas venus au Mans. C'est leur retour cette année. Donc, regarde l'engouement qu'il y a depuis une semaine autour de Ferrari. Moi, j'ai croisé des Italiens qui sont venus ici, mais qui sont carrément en transe quand ils voient cette voiture.
Alors, cette voiture, qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Parce que ça, c'est la voiture qui va courir. Qui va prendre le départ donc samedi.
Oui, alors c'est une maquette. Hein. Les vraies voitures, elles sont là-bas au paddock. Mais ça, c'est la voiture. C'est la même voiture qui va courir. Bah, les hypercars, ce sont des voitures qui sont hyper évoluées aujourd'hui. C'est la catégorie reine des 24 heures du Mans. C'est des voitures qui font 1000 chevaux. Donc, c'est pas à mettre entre toutes les mains.
Mais alors, dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas couru pendant 50 ans, cette écurie Ferrari?
Bah, parce que Ferrari n'avait plus l'opportunité de venir au Mans. Donc, oui. Voilà, les Ferrari sont allés un peu plus sur la Formule 1. Ils avaient délaissé l'endurance. Et là, cette cette année. Ils ont décidé, comme d'autres grandes marques, comme Peugeot qui revient, comme Cadillac qui revient après 21 ans d'absence, comme Porsche qui revient. Tout le monde a décidé de revenir cette année pour l'année du centenaire dans cette belle catégorie reine qui sont les hypercars.
Et qu'est-ce que ça veut dire justement que de grandes écuries qui font des performances dans d'autres types de courses reviennent ici ?
Mais parce que c'est une vitrine. Le Mans, c'est une vitrine. C'est une vitrine mondiale. Et la vitrine, elle est là. Et être présent au Mans, bah, c'est dans le cœur des tifosi, dans le cœur, alors pour évidemment pour Ferrari, mais pour Porsche c'est la même chose. Ça permet de vendre des voitures derrière, ça permet de faire parler de la marque et ça permet d'avoir une étiquette Le Mans. Et là, l'étiquette Le Mans, elle est importante pour chaque écurie et pour chaque grande marque.
Vous m'avez fait une promesse. Vous m'avez dit, je t'emmènerai, parce qu'on se voit et on se tutoie dans cette émission, tout le monde l'aura compris, je t'emmènerai dans un endroit où personne n'a le droit d'aller.
Là, il faut être dûment accrédité, comme on dit
et
ici
donc,
au Mans.
Et donc, je suis dûment accrédité quand je suis à votre bras et nous allons donc dans un instant...
Au paddock, c'est là où tout se passe, c'est l'arrière de la
génial.
Course. Là, ici, on est avec le public. Vous voyez, il y a une foule énorme.
Et là,
là-bas,
après,
il y a un petit peu moins de monde. Il y a aussi beaucoup de monde, mais il n'y aura que nous.
Et on y emmène nos auditeurs. A tout de suite pour Jour J.
RTL, Jour J.
Avec Flavie Flamand. Jusqu'à 21h, Jour J. Avec Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, Jour J vous ouvre des portes qui sont rarement franchies et ça c'est grâce à vous Frédéric Veil. Nous sommes donc dans le paddock, le mythique paddock de la mythique course des 24 heures du Mans. Alors je dois quand même vous avouer que ça fait partie un petit peu là pour le coup de mes rêves. C'est-à-dire que lorsque je regarde une course automobile à la télévision, c'est vraiment le secret finalement des écuries qui m'intéresse, au-delà même de la course. J'ai l'impression que l'ambiance a changé quand on arrive ici.
Ah bah, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit qui n'est pas ouvert au public. Il y a très très peu de public, il y a quelques personnes, des VIP qui sont dûment accrédités, qui peuvent entrer ici. Pour bien que nos auditeurs comprennent, vous voyez la grande grande tribune des stands,
oui.
Elle est là. Sous cette tribune des stands, il y a tous les garages de toutes les voitures, donc des 62 voitures qui vont prendre le départ.
C'est ce qu'on appelle
et
le paddock.
Là, le paddock. Et là, on est dans le paddock justement avec tous les garages et où tout se passe. Là, pour tout vous expliquer, on est devant chez Ferrari. On est déjà dans la légende parce qu'il y a toutes les victoires Ferrari qui sont affichées. Et là, vous voyez, Flavie, il y a les pneus de toutes
ça
les voitures.
Ça sent le pneu, c'est incroyable.
Ça sent le pneu. Vous voyez, il y a devant nous les avants des voitures des Ferrari parce que quand il y a un accident, il faut que tout ça soit remplacé. Là, on est dans l'antre des mécaniciens du stockage de toutes les pièces qui vont servir à la course pendant les 24 heures. Et dans chaque stand, qu'on soit chez Ferrari, qu'on soit chez Porsche, qu'on soit chez Toyota, qu'on soit chez Alpine, c'est la même chose. C'est l'arrière du grand garage où on va rentrer tout à l'heure.
Ok, alors donc ici, ce sont ces fameux paddocks de toutes les écuries qui vont courir. Au moment de la course, l'ambiance ici, c'est quoi ?
Assez tendu et il faut faire très très attention parce qu'en fait, vous voyez, il y a des petites motos qui sont en train de, comme celle qui est en train de passer devant nous.
Des motos, des quads en fait. Hein,
des quads, qui sont avec des pneus chargés. Voilà, on amène du matériel, il y a beaucoup de logistique qui est fait ici. C'est pour ça qu'il y a très très peu de public qui vient ici parce que c'est un endroit où déjà il est interdit de fumer, comme un peu partout sur le circuit, mais encore plus ici parce qu'il y a énormément d'essence de stocker. Donc il faut faire très attention partout et puis il faut être vigilant. C'est-à-dire que quand on est dans le paddock, on regarde un petit peu à droite à gauche parce que c'est un endroit où on travaille, où les mécaniciens, les techniciens, les ingénieurs travaillent.
Mais Frédéric, il doit y avoir plein de choses top secrètes ici.
Ce qui est secret, c'est, regardez, on est devant le stand Ferrari, c'est écrit « Team Only ». C'est-à-dire que il n'y a que le team qui peut rentrer. Même nous, journalistes, du moins accrédités, on ne peut pas rentrer dans ces stands-là parce qu'il y a des secrets de fabrication.
Voilà, c'est ça, il y a des secrets de fabrication.
Ben,
j'imagine aussi qu'il y a donc des ingénieurs qui sont sur place. Il y a, enfin, racontez-nous un petit peu qui travaille dans ces stands dans lesquels on ne peut pas pénétrer pour l'instant parce qu'après, on aura le droit.
Après, on aura le droit.
On va aller chez Alpine, c'est ça ?
Voilà, parce qu'on connaît bien les gens de chez Alpine. Mais regardez, là, on est toujours devant chez Ferrari parce que Ferrari, c'est quand même 6 ou 7 voitures ici au Mans. Et vous voyez, il y a des grandes, grandes structures qui sont mises, donc juste, pour être trivial, au cul des garages.
Ouais.
Et bah, tout en haut, ce qui se passe, tout ce qui est vitré, en fait, ce sont là où les ingénieurs travaillent. Les ingénieurs ont des ordinateurs, ont tout ce qu'il faut pour vérifier tout ce qui se passe sur les voitures. Et c'est là où toutes les voitures sont réglées, comme exactement ici, dans cette grande semi-remorque qui est entièrement dédiée, en fait, à l'ingénierie de chaque voiture.
Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais qu'on explique à nos auditeurs. D'abord, il y a trois catégories de voitures qui courent en même temps aux 24 heures du Mans.
Exactement, exactement. Il y a les hypercars, qui est la catégorie reine. Ensuite, il y a les prototypes que l'on appelle les LMP2, qui sont des voitures un petit peu moins puissantes, qui font 650 chevaux, mais qui sont effectivement des prototypes. Et ensuite, il y a les GT, ce sont les voitures de monsieur tout le monde, mais évidemment qui ne sont pas de tout le monde, puisque ce sont des voitures hyper puissantes, mais la Porsche ressemble à une Porsche, l'Aston Martin ressemble à une Aston Martin, et la Ferrari ressemble à une Ferrari.
Mais ça veut dire aussi que il y a des voitures qui ne circulent pas à la même vitesse, donc j'imagine que les GT se font doubler par...
Les GT se poussent, c'est-à-dire que les GT, quand elles sont à fond dans la ligne droite des Hunaudières, elles sont à 300, elles se poussent parce que les autres arrivent à 350 voire 360 km/h.
D'accord, donc elles cèdent la place mais elles continuent de courir dans leur catégorie.
Voilà, et tout le monde court en bonne intelligence, mais de temps en temps, il peut y avoir quelques accrochages, comme c'est arrivé il y a deux jours là, lors des essais.
Et là, c'est angoissant, enfin
C'est angoissant, c'est un accrochage à pleine vitesse, à plus de 300 km/h, donc généralement, il y a un peu de dégâts.
Il y a eu de gros accidents sur les...
Malheureusement, oui, il y a Allan Simonsen, un pilote danois, qui est le dernier pilote décédé, c'était il y a une dizaine d'années, qui s'est tué juste à l'entrée de la ligne droite des Hunaudières, qui a raté son virage. Depuis, et fort heureusement, il n'y en a pas eu, mais il y a eu plus de 20 morts parmi les pilotes depuis l'existence des 24 heures du Mans.
Et vous avez assisté à vous avez couvert des éditions qui ont été des éditions marquantes ?
Malheureusement, oui, et c'est jamais agréable, surtout quand on connaît un peu les pilotes et qu'on les côtoie depuis des années et avec qui on peut avoir une certaine sympathie.
Dans ces cas-là, c'est tout un circuit qui pleure ?
C'est tout un circuit qui pleure, c'est toute une communauté qui pleure et c'est toute une célébration qui est faite autour du pilote disparu. Mais une fois de plus, la course reprend toujours le dessus. Tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde sait qu'en prenant un volant, il y a du risque. Tous les pilotes le savent.
On va aller chez Alpine. On va se retrouver avec nos auditeurs dans un instant. Qui nous attend là-bas, dans le stand ?
Un pilote Alpine, mais c'est un pilote qui a une histoire particulière parce qu'il est né au Mans, il vit au Mans, il travaille au Mans. Il a 40 ans aujourd'hui. Et depuis 14 ans, il court les 24 heures du Mans. Et en plus, cette année, il est sur une marque française, sur la marque Alpine. Il s'appelle Julien Canal.
Eh bien, on va le retrouver dans un instant. À tout de suite. Depuis donc le stand Alpine sur le circuit des 24 heures du Mans.
Flavie Flamand sur RTL.
Jour J. Jusqu'à 21h. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Allez, chose promise, chose due. On y va direct, hein, parce qu'apparemment, on va vivre quelque chose d'assez exceptionnel. Nous avons le droit, Frédéric Veil, de rentrer donc dans le stand de l'écurie Alpine.
Alors, mieux que dans le stand, on va rentrer dans le garage qui est sous la tribune principale. Là, on est en train de passer derrière le stand d'Alpine. Donc, vous avez vu, il y a tous les pneus, il y a toutes les pièces.
Il y a une atmosphère de rechange quand même, qui est très particulière. Là, il y a de moins en moins de monde, on va pas se mentir.
Là, il n'y a vraiment plus personne. Et là, on va pouvoir rentrer.
Bonjour, monsieur, le monsieur de la sécurité qui nous laisse passer. C'est trop cool.
Et là, on est dans le garage.
Génial. Alors, donc là, j'ai l'impression qu'on est dans un truc de mécanique.
Et on est dans un truc de mécanique.
Wow.
Et on va découvrir les deux Alpines qui vont courir les 24 heures du Mans. Elles sont là et on est carrément là sur la piste.
C'est dingue.
La piste, elle est là. Les voitures sont en train de courir parce que ce sont les essais actuellement. Les deux Alpines sont rentrées au stand parce qu'il y a quelques petites modifications à faire sur les voitures. Et vous voyez, les ingénieurs sont là, les bolides sont là.
Voilà, j'ai sous les yeux ce que l'on voit toujours à la télévision, c'est-à-dire ces ingénieurs, ces mécaniciens qui sont sur ces deux voitures. Et nous attend Julien, c'est ça ?
Ben, Julien Canal qui est là, Julien Canal qui est l'un des six pilotes de l'écurie Alpine.
Bonsoir Julien, merci beaucoup de nous accueillir à la maison.
Bonsoir.
C'est trop cool. Alors, c'est ce que je disais à Frédéric, quelle chance on a là de faire partager à nos auditeurs ce qui finalement est un petit peu votre quotidien, c'est-à-dire que vous, ces voitures, ce sont les vôtres, vous les connaissez, ça, c'est toute cette équipe aussi d'ingénieurs, de mécaniciens, vous travaillez avec elles. Donc, racontez-nous un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes là à deux jours du départ.
Alors là, c'est un événement particulier, le centenaire.
Oui.
Pour moi, ça rentre un peu dans l'habitude puisque c'est la 14e année d'affilée.
Oui, et vous êtes du Mans en plus.
Voilà, je suis né ici, donc c'est un peu particulier de dormir chez soi, contrairement à l'hôtel ou être en déplacement. Dire un petit coucou, un petit au revoir à la famille. J'ai pas amené les enfants à l'école ce matin, donc c'était plutôt sympa.
Ouais.
Mais de venir au circuit, de se concentrer, de se préparer, de rencontrer toute l'équipe, les mécaniciens. On est plus d'une vingtaine par voiture. Donc c'est important voilà, de tous les saluer et puis surtout de les accompagner dans le réglage de la voiture aussi.
Mais quand on est, waouh, on est vraiment au cœur du truc là. Quand on est pilote justement, est-ce qu'on a besoin tous les jours avant une course, est-ce que ça fait partie de la préparation mentale de venir, de regarder son véhicule, de voir cette équipe qui travaille pour vous et pour votre performance? Est-ce que c'est essentiel d'être dans l'ambiance?
Alors je pense que le côté humain est très important comme d'habitude, hein, qu'il soit dans le côté pro ou sportif. C'est important de connaître les prénoms de chacun, d'avoir un détail personnel sympa, de checker aussi, même si c'est leur métier, ils connaissent évidemment encore mieux la voiture que moi. Mais c'est important pour nous de connaître le fonctionnement, parce que en connaissant le fonctionnement de la voiture, les ressorts, le réglage, l'aérodynamique, on arrive nous après avec des sensations dans la voiture à retranscrire exactement ce qu'on veut. Et ça joue vraiment au millimètre.
Et ça veut dire que pendant la course, vous êtes en contact permanent avec l'équipe qui est ici, vous vous parlez ?
Exact, en fait, dès qu'on enfile le casque, on a deux prises, c'est-à-dire qu'on se branche à la voiture, à la radio et aussi avec de l'eau pour pouvoir boire. On a un bouton sur le... On a beaucoup de boutons, une dizaine en tout, pour régler la traction, l'accroche de la voiture au sol et la radio aussi, les appels de phare. Donc avec ça, on arrive à dire à l'instant, en instant T exactement ce que fait la voiture, si elle glisse, si ça va, s'il y a un problème, comment on adapte notre pilotage. Et même notre ingénieur en fait nous donne des conseils si on a plus ou moins passé, on est rentré vite, il faut qu'on freine plus tôt, on est en communication à la seconde.
Vous êtes impatient là ?
C'est plutôt excitant, hein, toujours comme d'habitude. Ouais. On voit les séries qui partent, les qualifications qui sont passées, les essais de nuit pour ce soir. Donc c'est important de, voilà, d'être concentré. On fait un peu de médias, c'est sympa, moi j'adore partager aussi les sensations que j'ai parce qu'après je serai tout seul dans ma voiture. Mais voilà, c'est important d'être hyper concentré. Et en tout cas, voilà, toute l'équipe est prête pour ce soir.
Ouais, ce qui me fait plaisir, Julien, c'est qu'on a fait sursauter Flavie.
Ah oui.
Et vous m'avez fait beaucoup d'effets.
Mais Flavie n'est pas encore montée dans la voiture.
Ah ouais.
Si on a l'occasion, on la fera asseoir dans la voiture tout à l'heure.
Ah oui, avec une grande joie, parce que j'aimerais justement les ressentir, ces émotions, mais on le fera à l'arrêt. En tout cas, merci mille fois de nous avoir ouvert les portes comme ça du stand Alpine. Je dois avouer que je suis hyper impressionnée et que cette passion qui est celle de Frédéric, vous arrivez aussi à nous la transmettre. Et je sais pas, on dit merde en fait dans le milieu automobile ou
il
pas ?
Il paraît, on dit merde, faut rien répondre, bonne chance.
Bon, le meilleur
pas
pour
la chance,
vous.
Mais voilà, on va pousser en tout cas.
Eh ben, le meilleur pour vous, merci beaucoup.
Merci.
Julien. Allez, on se retrouve dans un instant parce qu'il va falloir, Frédéric, que vous nous parliez justement de cette édition 2023. Et puis on en profitera pour soutenir la maison Alpine. A tout de suite.
Jour J avec Flavie jusqu'à 21h. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Voilà très certainement l'un des moments que j'attendais avec le plus d'impatience, Frédéric, parce qu'on va crescendo ce soir dans Jour J. Et nous voici désormais sur le bord de la piste, le circuit des 24 heures du Mans. Un bruit qui nous prend le cœur. C'est ce que je te disais en arrivant. C'est mon cœur mon cœur est touché par le bruit.
C'est le bruit typique du Mans. En plus, là, on est dans la tribune de la ligne droite des stands. Donc, ça résonne. Il y a une résonance. Et sur certaines voitures, quand ça passe, ça vibre jusque dans les poumons, dans les bronches.
Le bruit est en nous. Voilà. J'ai l'impression d'être habité par le bruit. Ces voitures passent à quelle vitesse ?
Ah bah ici, elles sont dans la ligne droite. En haut de la ligne droite, elles sont à presque 300 km/h.
Qui nous attend, parce que là ce sont encore les essais, mais ça va ressembler à quoi cette année 2023 et 24 heures du Mans?
Bah, ça va être une course qui risque d'être magique. Elle va être magique parce que cette année, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est le retour des grandes marques, le retour de Ferrari, le retour de Porsche, de Peugeot, de Cadillac. Ils vont tenter d'aller titiller Toyota parce que Toyota, ça fait 5 ans qu'ils gagnent les 24 heures du Mans. Et aujourd'hui, ben, voilà, ils étaient tout seuls pendant 5 ans. Cette année, les grosses écuries reviennent. Donc ça va être sur la piste que ça va jouer, à la régulière, avec des voitures complètement démentes. Ces voitures, elles ont été conçues pour Le Mans, elles ont été conçues pour l'endurance, elles ont été conçues pour que ça roule vite et très longtemps.
Sur ce circuit qui fait un peu plus de 13 km, est-ce qu'il y a des passages qui sont particulièrement compliqués à aborder pour les pilotes ?
Évidemment, il y en a plein, et c'est toute la difficulté du circuit, et c'est pour ça que beaucoup de pilotes disent que c'est le plus beau circuit du monde, parce que Il y a la mythique de la ligne droite des Hunaudières. Avant, elle faisait 7 km. Aujourd'hui, elle a été raccourcie par deux chicanes parce que, il y a quelques années, il y a des voitures. Elles allaient tellement vite, elles passaient les 450 km/h et elles s'envolaient. Donc, on a arrêté ça pour des raisons de sécurité. On a mis des chicanes. Après, il y a effectivement le village d'Indianapolis qui est le village mythique des 24 heures du Mans. J'ai eu la chance, il y a deux jours, de pouvoir le faire dans une Porsche, dans un safety car pour un reportage qui passera d'ailleurs demain matin sur l'antenne. J'ai passé ce virage à 300 km/h, c'est juste une sensation incroyable, c'est incroyable. Donc tout ce que vivent ces pilotes, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'ils sont à fond tout le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 13 km, ils les avalent en un petit peu plus de 3 minutes. Imaginez, 3 minutes, 13 km. C'est pour vous dire à peu près la vitesse que ça va. Les voitures, elles sont à plus de 300 km/h tout le temps.
Julien Canal m'expliquait tout à l'heure dans le stand Alpine qu'un plein fait 45 minutes.
Mais de toute façon, ils ne peuvent pas durer beaucoup plus. C'est-à-dire que le plein dure 45 minutes, mais un pilote, au bout de 45 minutes, il est exténué, il a perdu un ou deux kilos. Donc ils sont obligés de boire sans arrêt, s'alimenter sans arrêt pendant qu'ils font les relais. Sinon, ils ne tiendraient pas. Il faut savoir que dans une voiture comme ça, on prend entre 4, 5, voire 6 G dans les virages. C'est-à-dire 6 fois le poids de son corps dans les virages, à l'accélération ou au freinage. Donc c'est une énergie de malade. Et ces pilotes sont des grands sportifs. Ils se préparent toute l'année pour cet événement.
Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi, les pilotes ? C'est quoi ? Pour toi, ce sont des héros. Parce que je sais que tu aimes aussi la navigation, tu fais le départ de la route du Rhum, tu fais le départ de la Transat Jacques Vabre. Mais là, ces pilotes-là, c'est quoi à tes yeux ?
Ce sont des héros parce que déjà, de pouvoir vivre un jour, de pouvoir un jour courir les 24 heures du Mans, déjà, c'est un exploit. De terminer les 24 heures, de participer aux 24 heures du Mans, c'est aussi un exploit. De les terminer, l'exploit, il est immense. C'est pas donné à tout le monde de faire les 24 heures du Mans. Moi, je suis un habitué, j'adore la course automobile. J'en ai déjà fait un petit peu. Je suis incapable de faire les 24 heures du Mans. Ça demande un investissement hyper important et puis un talent énorme. Il faut un talent énorme. On ne monte pas comme ça dans une voiture par hasard. On ne roule pas à 350 km/h sur un circuit par hasard. Donc, ces gens-là sont des héros et ce sont eux qui écrivent la légende des 24 heures du Mans. Pourquoi aujourd'hui des gens comme Pescarolo, comme Jack Hicks, comme Tom Christensen, comme Derek Bell sont devenus des héros ? Parce qu'ils ont gagné le Mans, parce qu'ils ont inscrit leur nom à cette épreuve qui fait partie des trois grandes épreuves mythiques de la course automobile. Il y a les 500 miles d'Indianapolis, le Grand Prix de Monaco et les 24 heures du Mans.
Les 24 heures du Mans que tu vas couvrir pour RTL, évidemment. On te souhaite un fabuleux week-end. On souhaite à nos auditeurs de vivre ça avec RTL. Merci mille fois de nous avoir permis cette immersion, d'aller dans le stand Alpine, de venir ici en bord de piste. C'est inutile de prendre des places pour les 24 heures du Mans cette année.
C'est à guichet fermé, donc voilà, inutile de venir se pointer devant les portes d'entrée du circuit.
Ça ne donnera rien. En revanche, vous pouvez prévoir peut-être de venir l'année prochaine. Parce que je vous le dis, franchement, j'ai vécu un très très grand moment et une très grande soirée grâce à toi. Merci beaucoup, Frédéric.
La prochaine fois, le défi, ce sera de monter dans une voiture.
Avec grande joie
avec
et grande appréhension. Merci, Frédéric.
RTL, jour J. Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci à tous de nous avoir suivis dans cette immersion exceptionnelle. On se retrouve lundi pour parler d'un autre héros. Son monde à lui, la mer. Elle a été cruelle et sans appel quand il est tombé en pleine nuit de son bateau, le Pendwick. C'était il y a 25 ans. Éric Tabarly, raconté par son ami marin et coéquipier Gérard Petitpas, ce sera dans Jour J, lundi, dès 20h. Tout de suite, c'est la musique. Éric Jean-Jean et bonus track, mais avant les infos.